Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Septième lettre. Thèbes, le 24 novembre 1828. Ma dernière lettre datée de Beni Hassan, continuée en remontant le Nil, et close à Osyout, a dû en partir du 10 au 12 de ce mois. Elle parviendra par Livourne. Dieu veuille qu'elle arrive plus promptement que celle qui, depuis mon départ de France, m'ont été adressées par ceux qui se souviennent de moi. Je n'en ai reçu aucune. C'est hier seulement, et par un capitaine de navire anglais qui parcourt l'Égypte, que j'ai appris que le docteur Parizet y était aussi arrivé et qu'il se trouve dans ce moment au Caire, mais je n'en sais pas davantage pour cela sur ma famille. S'il en était autrement et que je fusse tranquille sur la santé de tous les miens, je serais le plus heureux des hommes, car enfin je suis au centre de la vieille Égypte et ses plus hautes merveilles sont à quelques toises de ma barque. Voici d'abord la suite de mon itinéraire. C'est le 10 novembre que je quittais Osyout après avoir visité ces hypogées parfaitement décrits par messieurs Jolois et Devilliers, dont je reconnais chaque jour à Thèbes l'extrême exactitude. Le 11 au matin, nous passâmes devant Wau el Kebir, Antéopolis. Et mon Maash traversa à pleine voile l'emplacement du temple que le Nil a complètement englouti sans en laisser les moindres vestiges. Quelques ruines d'Akmin, celle de Panopolis, reçurent ma visite le 12, et je fus assez heureux pour y trouver un bloc sculpté qui m'a donné l'époque du temple, qui est de Ptolémée Philopator. Et l'image du dieu Pan, lequel n'est autre chose, comme je l'avais établi d'avance, que l'amont générateur de mon panthéon. L'après-midi et la nuit suivante se passèrent en fête, bals, tours de force et concerts chez l'un des commandants de la Haute Égypte, Mohamed Aga, qui envoya sa cange, ses gens et son cheval pour me ramener, avec tous mes compagnons, à Sawadji, que j'avais quitté le matin, et où il fallut retourner bon gré mal gré, pour ne pas désobliger ce brave homme, bon vivant, bon convive, et ne respirant que la joie et les plaisirs. L'air de Malbrook, que nos jeunes gens lui chantèrent en chœur, le fit pâmer de plaisir. Et ses musiciens eurent aussitôt l'ordre de l'apprendre. Voyez l'extrait de l'itinéraire et les lettres du Mamour à la fin de ce volume. Nous partîmes le 13 au matin, comblés des dons du brave Osman Lee. À midi, on dépassa Ptolémaïs, où il n'existe plus rien de remarquable. Sur les 4 heures, en longeant le Djebel el Aserat, nous aperçûmes les premiers crocodiles. Ils étaient 4, couchés sur un îlot de sable, et une foule d'oiseaux circulait au milieu d'eux. J'ignore si dans le nombre était le trochilus de notre ami Geoffroy Saint-Hilaire. Peu de temps après, nous débarquâmes à Girgé. Le vent était faible, le 15, et nous fîmes peu de chemin. Mais nos nouveaux compagnons, les crocodiles, semblaient vouloir nous en dédommager. J'en comptais 21, groupés sur un même îlot, et une bordée de coups de fusil à balles, tirés d'assez près, n'eut d'autre résultat que de disperser ce conciliabule. Ils se jetèrent au Nil, et nous perdîmes un quart d'heure à désengraver notre Maash, qui s'était trop approché de l'îlot. Le 16 au soir, nous arrivâmes enfin à Dendera. Il faisait un clair de lune magnifique. Pouvions-nous résister à la tentation? Souper et partir sur le champ furent l'affaire d'un instant. Seuls et sans guide, mais armés jusqu'aux dents, nous prîmes à travers champs, présumant que les temples étaient en ligne droite de notre marche. Nous marchâmes ainsi, chantant les marches des opéras les plus nouveaux, pendant une heure et demie, sans rien trouver. On découvrit enfin un homme. Nous l'appelons, mais il s'enfuit à toutes jambes, nous prenant pour des bédouins, car habillé à l'orientale et couvert d'un grand burnous blanc à capuchon, nous ressemblions, pour l'Égyptien, à une tribu de bédouins. Tandis qu'un Européen nous eût pris sans balancer pour un chapitre de chartreux bien armé. On m'amena le fuyard, et le plaçant entre quatre de nous, je lui ordonnai de nous conduire au temple. Ce pauvre diable, peu rassuré d'abord, nous mit dans la bonne voie et finit par marcher de bonne grâce. Maigre, sec, noir, couvert de vieux haillons, c'était une momie ambulante. Mais il nous guida fort bien et nous le traitâmes de même. Les temples nous apparurent enfin. Je n'essaierai pas de décrire l'impression que nous fit le grand propylon et surtout le portique du grand temple. On peut bien le mesurer, mais en donner une idée, c'est impossible. C'est la grâce et la majesté réunies au plus haut degré. Nous y restâmes 2 heures en extase, courant les grandes salles avec notre pauvre falot et cherchant à lire les inscriptions extérieures au clair de la lune. On ne rentra au Maash qu'à 3 heures du matin pour retourner au temple à 7 heures. C'est là que nous passâmes toute la journée du 17. Ce qui était magnifique à la clarté de la lune l'était encore plus lorsque les rayons du soleil nous firent distinguer tous les détails. Je vis dès lors que j'avais sous les yeux un chef-d'œuvre d'architecture couvert de sculptures de détails du plus mauvais style. N'en déplaise à personne, les bas-reliefs de Dendera sont détestables. Et cela ne pouvait être autrement. Ils sont d'un temps de décadence. La sculpture s'était déjà corrompue, tandis que l'architecture, moins sujette à varier puisqu'elle est un art chiffré, s'était soutenue digne des dieux de l'Égypte et de l'admiration de tous les siècles. Voici les époques de la décoration. La partie la plus ancienne est la muraille extérieure, à l'extrémité du temple, où sont figurées de proportions colossales Cléopâtre et son fils Ptolémée César. Les bas-reliefs supérieurs sont du temps de l'empereur Auguste, ainsi que les murailles extérieures latérales du Naos, à l'exception de quelques petites portions qui sont de l'époque de Néron. Le Pronaos est tout entier couvert de légendes impériales de Tibère, de Caius, de Claude et de Néron. Mais dans tout l'intérieur du Naos, ainsi que dans les chambres et les édifices construits sur la terrasse du temple, il n'existe pas un seul cartouche sculpté. Tous sont vides et rien n'a été effacé. Mais toutes les sculptures de ces appartements, comme celles de tout l'intérieur du temple, sont du plus mauvais style et ne peuvent remonter plus haut que les temps de Trajan ou d'Antonin. Elles ressemblent à celles du propylon du sud-ouest, ou serait-ce du sud-est, qui est de ce dernier empereur et qui, étant dédié à Isis, conduisait au temple de cette déesse placée derrière le grand temple qui est bien le temple de Hathor, Vénus, comme le montrent les 1001 dédicaces dont il est couvert, et non pas le temple d'Isis, comme l'a cru la commission d'Égypte. Le grand propylon est couvert des images des empereurs Domitien et Trajan. Quant au Typhonium, il a été décoré sous Trajan, Hadrien et Antonin le Pieux. Le 18 au matin, je quittai le Maash et courus visiter les ruines de Koptos, Keft. Il n'y existe rien d'entier. Les temples ont été démolis par les chrétiens qui employèrent les matériaux à bâtir une grande église dans les ruines de laquelle on trouve des portions nombreuses de bas-reliefs égyptiens. J'y ai reconnu les légendes royales de Nectaneb, d'Auguste, de Claude et de Trajan, et plus loin quelques pierres d'un petit édifice bâti sous les Ptolémées. Ainsi, la ville de Koptos renfermait peu de monuments de la haute antiquité, si l'on s'en rapporte à ce qui existe maintenant à la surface du sol. Les ruines de Kous, Apollonopolis Parva, où j'arrivai le lendemain matin, 19, présentent bien plus d'intérêt, quoiqu'il n'existe de ces anciens édifices que le haut d'un propylon à moitié enfoui. Ce propylon est dédié au dieu Haroéris, dont les images, sculptées sur toutes ses faces, sont adorées du côté qui regarde le Nil, c'est-à-dire sur la face principale, la plus anciennement sculptée par la reine Cléopâtre Coxé, qui prend le surnom de Philométor, et par son fils Ptolémée Soter II, qui se décore aussi du titre de Philométor. Mais la face supérieure du propylon, celle qui regarde le temple, couverte de sculptures et terminée avec beaucoup de soin, porte partout les légendes royales de Ptolémée Alexandre Ier en toutes lettres. Il prend aussi le surnom de Philométor. Quant à l'inscription grecque, la restitution de Sotires, commentaire hors texte de J.F. Leblanc, ce mot que je viens de lire ainsi que plusieurs autres à venir sont tous écrits en caractère hellénique. Donc je vais faire du mieux que je peux avec mes pauvres connaissances en grec. Ma femme est grecque, c'est pour ça que j'ai appris le grec à l'université pendant un an. Mais c'était du grec démotique, mais heureusement, ce que je vois ici, ce sont des caractères helléniques modernes. Enfin bref, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si je commets occasionnellement quelques fautes dans la lecture de ces mots écrits en grec. Retour au texte de Jean-François Champollion. Je disais donc, la restitution de Sotires au commencement de la seconde ligne proposé par M. Letronne, est indubitable, car on y lit encore très distinctement « Tires », et cela sur la face principale où sont les images et les dédicaces de Cléopâtre Coxé et de son fils Ptolémée Philométor Soter II. Mais M. Letronne a mal à propos restitué « Il lit » J'appelle I-L-I-O-I, là où il faut réellement Aroire, j'appelle A-R-O-I-R-E-I, transcription exacte du nom égyptien du dieu auquel est dédié le propylon. Car on lit très distinctement encore dans l'inscription grecque Aroire Thei, A-R-O-I-R-E-I-Z-A-E-O-I. J'ai trouvé aussi dans les ruines de Kous une moitié de stèle datée du premier de Paoni de l'an 16 de Pharaon Ramsès Meïamoun et relative à son retour d'une expédition militaire. J'aurai une bonne empreinte de ce monument, trop lourd pour qu'on puisse penser à l'emporter. C'est dans la matinée du 20 novembre que le vent, lassé de nous contrarier depuis 2 jours et de nous fermer l'entrée du sanctuaire, me permit d'aborder enfin à Thèbes. Ce nom était déjà bien grand dans ma pensée. Il est devenu colossal depuis que j'ai parcouru les ruines de la vieille capitale, l'aînée de toutes les villes du monde. Pendant 4 jours entiers, j'ai couru de merveille en merveille. Le premier jour, je visitai le palais de Kurna, les colosses du Memnonium et le prétendu tombeau d'Ozymandias, qui ne porte d'autres légendes que celles de Ramsès le Grand et de deux de ses descendants. Le nom de ce palais est écrit sur toutes ses murailles. Les Égyptiens l'appelaient le Ramesséion, comme ils nommaient Amenophion, le Memnonium, et Mandoueion, le palais de Kurna. Le prétendu colosse d'Ozymandias est un admirable colosse de Ramsès le Grand. Le second jour fut tout entier passé à Medinet Abou, étonnante réunion d'édifices où je trouvai les propylées d'Antonin, d'Adrien et des Ptolémées. Un édifice de Nectaneb, un autre de l'Éthiopien Tharaka, un petit palais de Thoutmôsis III, Moeris, enfin l'énorme et gigantesque palais de Ramsès Meïamoun, couvert de bas-reliefs historiques. Le troisième jour, j'allai visiter les vieux rois de Thèbes dans leurs tombes, ou plutôt dans leur palais creusé au ciseau, dans la montagne de Biban el-Moulouk. Là, du matin au soir, à la lueur des flambeaux, je me lassai à parcourir des enfilades d'appartements couverts de sculptures et de peintures, pour la plupart d'une étonnante fraîcheur. C'est là que j'ai recueilli, en courant, des faits d'un haut intérêt pour l'histoire. J'y ai vu un tombeau de roi martelé d'un bout à l'autre, excepté dans les parties où se trouvaient sculptées les images de la reine, sa mère, et celles de sa femme, qu'on a religieusement respectées, ainsi que leurs légendes. C'est, sans aucun doute, le tombeau d'un roi condamné par jugement après sa mort. J'en ai vu un second, celui d'un roi thébain des plus anciennes époques, envahi postérieurement par un roi de la 19e dynastie, qui a fait recouvrir de stuc tous les vieux cartouches pour y mettre le sien et s'emparer ainsi des bas-reliefs et des inscriptions tracées pour son prédécesseur. Il faut cependant dire que l'usurpateur fit creuser une seconde salle funéraire pour y mettre son sarcophage, afin de ne point déplacer celui de son ancêtre. À l'exception de ce tombeau-là, tous les autres appartiennent à des rois des 18e et 19e ou 20e dynasties, mais on n'y voit ni le tombeau de Sésostris ni celui de Meuris. Je ne parle point ici d'une foule de petits temples et édifices épars au milieu de ces grandes choses. Je mentionnerai seulement un petit temple de la déesse Hathor, Vénus, dédié par Ptolémée Épiphane, et un temple de Thoth, près de Medinet Abou, dédié par Ptolémée Évergète II, et ses deux femmes. Dans les bas-reliefs de ce temple, ce Ptolémée fait des offrandes à tous ses ancêtres mâles et femelles, Épiphane et Cléopâtre, Philopator et Arsinoé, Évergète et Bérénice, Philadelphe et Arsinoé. Tous ces Lagides sont représentés en pied avec leur surnom grec traduit en égyptien, en dehors de leurs cartouches. Du reste, ce temple est d'un fort mauvais goût à cause de l'époque. Le quatrième jour, hier, 23, je quittai la rive gauche du Nil pour visiter la partie orientale de Thèbes. Je vis d'abord Louxor, palais immense, précédé de deux obélisques de près de 80 pieds, d'un seul bloc de granit rose, d'un travail exquis, accompagné de 4 colosses de même matière et de 30 pieds de hauteur environ, car ils sont enfouis jusqu'à la poitrine. C'est encore là du Ramsès le Grand. Les autres parties du palais sont des rois Mandouéi, Horus et Amenophis même nom, plus des réparations et additions de Sabacon l'Éthiopien et de quelques Ptolémées, avec un sanctuaire tout en granit d'Alexandre, fils du conquérant. J'allais enfin au palais, ou plutôt à la ville de monuments, à Karnak. Là m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand. Tout ce que j'avais vu à Thèbes, tout ce que j'avais admiré avec enthousiasme sur la rive gauche, me parut misérable en comparaison des conceptions gigantesques dont j'étais entouré. Je me garderai bien de vouloir rien décrire, car où mes expressions ne vaudraient que la millième partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets, ou bien si j'en traçais une faible esquisse, même fort décolorée, on me prendrait pour un enthousiaste, peut-être même pour un fou. Il suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens. Ils concevaient en hommes de 100 pieds de haut, et l'imagination qui, en Europe, s'élance bien au-dessus de nos portiques, s'arrête et tombe impuissante aux pieds des 140 colonnes de la salle hypostyle de Karnak. Dans ce palais merveilleux, j'ai contemplé les portraits de la plupart des vieux pharaons connus par leurs grandes actions, et ce sont des portraits véritables, représentés 100 fois dans les bas-reliefs des murs intérieurs et extérieurs. Chacun conserve une physionomie propre et qui n'a aucun rapport avec celle de ses prédécesseurs ou successeurs. Là, dans des tableaux colossales, d'une sculpture véritablement grande et toute héroïque, plus parfaite qu'on ne peut le croire en Europe, on voit Mandouéi combattant les peuples ennemis de l'Égypte et rentrant en triomphateur dans sa patrie. Plus loin, les campagnes de Ramsès Sésostris. Ailleurs, Sesonchis traînant au pied de la trinité thébaine, Amon, Mout et Khons, les chefs de plus de 30 nations vaincues, parmi lesquels j'ai retrouvé, comme cela devait être, en toutes lettres, Juda Hamalek, le royaume des Juifs ou de Juda. C'est là un commentaire à joindre au chapitre 14 du troisième livre des rois, qui raconte en effet l'arrivée de Sesonchis à Jérusalem et ses succès. Ainsi, l'identité que nous avons établie entre le Sheshonq égyptien, le Sesonchis de Mathneton et le Sesak ou Sheshonq de la Bible est confirmée de la manière la plus satisfaisante. J'ai trouvé autour des palais de Karnak une foule d'édifices de toutes les époques et lorsque, au retour de la seconde cataracte, vers laquelle je fais voile demain, je viendrai m'établir pour 5 ou 6 mois à Thèbes, je m'attends à une récolte immense de faits historiques, puisque en courant Thèbes, comme je l'ai fait pendant 4 jours, sans voir même un seul des milliers d'hypogées qui criblent la montagne libyque, j'ai déjà recueilli des documents fort importants. Je joins ici la traduction de la partie chronologique d'une stèle que j'ai vue à Alexandrie. Elle est très importante pour la chronologie des derniers saïtes de la 26e dynastie. J'ai de plus des copies d'inscriptions hiéroglyphiques gravées sur des rochers sur la route de Kosseir, qui donne la durée express du règne des rois de la dynastie persane. J'omets une foule d'autres résultats curieux. Je devrais passer tout mon temps à écrire s'il fallait détailler toutes mes observations nouvelles. J'écris ce que je puis dans les moments où les ruines égyptiennes me permettent de respirer au milieu de tous ces travaux et de ces jouissances réellement trop vives si elles devaient se renouveler souvent ailleurs comme à Thèbes. Ma santé est excellente, le climat me convient et je me porte bien mieux qu'à Paris. Les gens du pays nous accablent de politesse. J'ai dans ce moment-ci, dans ma petite chambre, premièrement un aga turc, commandant en chef de Kurna, dans le palais de Mandouei. Deuxièmement, le Sheikh el-Belad de Medineh Habu, donnant ses ordres au Ramesseum et au palais de Ramsès Meyamoun. Enfin, un Sheikh de Karnak, devant lequel tout se prosterne dans les colonnades du vieux palais des rois d'Égypte. Je leur fais porter de temps en temps des pipes et du café. Et mon drogman est chargé de les amuser pendant que j'écris. Je n'ai que la peine de répondre par intervalles réglés. Taïbin, cela va bien. À la question Ent Thayeb, cela va-t-il bien? Que m'adressent régulièrement toutes les 10 minutes ces braves gens que j'invite à dîner à tour de rôle. On nous comble de présents. Nous avons un troupeau de moutons et une 50aine de poules qui, dans ce moment-ci, paissent et fouillent autour du portique du palais de Kurna. Nous donnons en retour de la poudre et autres bagatelles. Je voudrais que le docteur Pariset vint me joindre. Nous pourrions causer Europe, dont je n'ai aucune nouvelle, pas même d'Alexandrie. J'écrirai de Sienne avant de franchir la première cataracte, si cependant j'ai une occasion pour faire descendre mes lettres. J'envoie celles-ci à Osyout, où j'ai établi un agent copte pour notre correspondance. J'ai recueilli à Beni Hassan beaucoup de fossiles pour M. de Férussac. J'en ai trouvé aussi de très beaux à Thèbes. J'espère aussi que notre vénérable ami M. Dacier trouvera quelques distractions à ses souffrances dans le peu que j'ai pu dire des magnificences de cette Thèbes qui excitait tant son enthousiasme à cause de l'honneur qui en revient à l'esprit humain. Je lui en dirai encore davantage. Il ne manque à mes satisfactions que celle de recevoir des lettres de France. Adieu. Fin de la 7e lettre et du 4e fichier. Des lettres écrites d'Égypte et de Nubie par Jean-François Champollion.